Bonjour à tous, chers auditeurs.
Terre, terre, oui, c'est toi. Terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi.
Préférez-vous votre maison natale ou votre maison onirique? Celle de votre souvenir ou celle qui, inconstructible, est la seule à vous apporter le repos de l'âme? Bachelard, lui, choisit la maison de ses rêves, seul lieu d'intimité véritable qui offre un lien privilégié avec la terre. Dernier élément aujourd'hui de la vie rêvée de Gaston Bachelard, la terre donc, et les rêveries de la volonté et du repos. Pour cette semaine de rêves et de rêveries, l'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy. Avec Georges Clès cette semaine à la lecture des textes, Nicolas Berger à la réalisation, Dophard Kéride à la prise de son aujourd'hui, ainsi que celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Tout à l'heure je parlerai de violence de la maladie, violence de la vie. C'est l'essai de Claire Marin qui paraît dans une deuxième édition aux éditions Armand Collin.
A tout à l'heure. Après la psychanalyse du feu, lundi, en compagnie de Vincent Bontemps. L'air et les songes, mardi, avec Marie-Pierre Lassus. Et l'eau et les rêves, hier, grâce à Jean-Philippe Pierron. Place aujourd'hui donc au quatrième élément. Jamais la matière n'a si bien porté son nom. La matière molle et dure, celle qui appelle à être modelée, celle qui appelle à être habitée, celle que l'on doit mater et celle dans laquelle on se niche. La terre et les rêveries de la volonté et du repos, c'est le philosophe Julien Lamy qui vient forger notre imaginaire aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous avez tout de suite une très grande différence entre la terre palpable, la pâte, n'est-ce pas, la glaise et la pierre. Par conséquent, vous voyez, rien qu'avec ces exemples, vous avez une division de ce qu'on peut appeler le psychisme terrestre. J'ai dit que le forgeron était un des rares métiers aux quatre éléments. Il faut quatre éléments pour analyser un forgeron vrai, un forgeron primitif, un forgeron auquel nous pensons. Le forgeron primitif est obligé de faire son fer, n'est-ce pas? Et par conséquent, il travaille avec de la terre. Il travaille naturellement avec le feu, tout le monde sent cela. Et il y a un énorme soufflet. Et puis, l'eau, n'est-ce pas? Et alors, il y a des images merveilleuses sur ce fer qui prend une certaine stabilité, ce fer rouge qu'on trempe évidemment dans l'eau du forgeron. Mais vous voyez par conséquent, si vous allez à des images de la terre, vous ne pouvez pas conserver l'unité psychique, l'unité onirique. Les images de la terre sont moins communicables, il y en a trop, elles sont trop diverses et elles n'ont pas l'unité que peut avoir une image du feu. Le feu, évidemment, est une image très simple. Bien entendu, il y a des feux qui dorment, il y a des feux qui sont traîtres, il y a des feux qui rejaillissent, mais on sait évidemment que c'est une espèce d'élément pur, c'est quelque chose qui surgit de nous-mêmes.
Julien Lamy, vous enseignez la philosophie au lycée de la Versoie à Thonon, vous êtes chargé de cours à l'université de Lyon et vous venez de soutenir, enfin l'an dernier, vous avez soutenu une thèse consacrée à Gaston Bachelard intitulée « Le pluralisme cohérent de la philosophie de Gaston Bachelard ».
Oui, c'est ça.
Une thèse qui paraîtra bientôt alors.
Oui, je l'espère.
C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette dernière émission consacrée à Bachelard. On vient de l'entendre, c'était en 1955, exprimer, enfin essayer de présenter son projet des rêveries, cette fois-ci terrestres. Alors, de son propre aveu, finalement, l'unité est beaucoup plus difficile à cerner. Le feu, on l'avait bien vu lundi d'ailleurs, l'air aussi, l'eau, la terre, il dit qu'il y a trop d'images. On ne sait pas quelle est la cohérence. Est-ce que ça veut dire que les deux ouvrages consacrés à la terre sont une espèce d'amas d'images sans connexion entre elles?
Alors, c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde les travaux que Bachelard consacre à la Terre. Déjà, il y a deux livres, comme vous l'avez dit, et qui sont assez volumineux. Et quand on examine tout simplement la table des matières ou les chapitres, on voit qu'il y a une diversité d'éléments ou de choses qui vont être l'objet des analyses de Bachelard. Il y a la pâte, il y a le bois, la pierre, il va y avoir aussi le serpent qui va apparaître, la racine, le vin même, qui sera le chapitre de conclusion de la terre et les rêveries du repos. Mais on voit que derrière toute cette grande diversité, Bachelard va essayer de retrouver quand même une forme de cohérence. Et ce qu'on entend dans l'extrait, c'est qu'il montre bien que cette cohérence, elle n'est pas liée à une unité de l'élémentaire. L'élémentaire, on va le voir assez vite en lisant le livre, Bachelard le présente, elle se présente tout de suite dans une forme d'ambivalence. C'est-à-dire que l'élément terrestre va se jouer notamment entre la résistance de la matière, qui va être ce qui stimule le travailleur notamment, mais aussi les rêveries de l'intimité. Donc on a cette première ambivalence. Et même à l'intérieur du monde résistant, Bachelard va souligner qu'il y a deux pôles, les matières dures, les matières molles, qui n'invitent pas au travail de la même manière. Et Bachelard va quand même essayer, derrière toute cette rhapsodie d'images et de textes qui sont convoqués, à essayer de classer quand même ces images et à montrer quels sont les axes qui permettent de voir leur cohérence.
Donc l'un des volumes s'appelle La Terre et les rêveries du repos et l'autre La Terre et les rêveries de la volonté. On retrouve ce paradoxe même à l'intérieur des titres même, ce qui montre bien que dans un certain cas, la Terre invite à une forme d'habitation tranquille et onirique. On le verra, c'est l'exemple de la maison qui prend à plusieurs reprises. Dans l'autre cas, c'est au contraire l'exemple du travailleur, du forgeron, celui qui va aller contre la Terre. Soit on va dans la Terre, soit on va contre la Terre.
Oui, effectivement, et ces deux prépositions sont importantes pour cerner un peu la logique de ces deux textes. Les matières dures, nous dit Bachelard, sont celles qui excitent la volonté de travail, et qu'elles sont une forme de stimulation pour l'homme qui rêve à la matière. Et au contraire, justement, toutes les formes de rêverie qui seront plutôt du côté de l'intimité seront celles qui vont nous inviter à nous loger au creux de la matière et même à rêver à l'intimité des substances, comme si on pouvait, par la rêverie, aller au cœur des choses. Et que finalement, rentrer dans cette profondeur de l'intimité matérielle nous permettait de nous lover dans la matière et de nous y sentir bien.
Mais finalement, de la matière, il en a été question à travers les autres éléments également. Donc pourquoi la Terre en particulier? Qu'est-ce qu'apporte la Terre en particulier que les autres éléments ne permettaient pas d'aborder?
Alors une première impression qu'on a quand on lit les deux livres dans le détail, Bachelard tend à nous faire comprendre que la Terre semble être l'élément le plus substantiel. Et que finalement, la Terre est presque l'archétype de la matière elle-même. L'air, l'eau, le feu sont des matières moins substantielles, plus fluides, plus éthéré dans une certaine mesure, alors que la matière, dans notre expérience commune, comme on peut le constater dans le contact avec les matières résistantes, ce monde qui est palpable, qu'on peut toucher, manipuler, qui des fois nous blesse, qui nous heurte, et que du coup fait de la Terre cet élément le plus substantiel. Et ça rejoindrait cette idée que la Terre semble être l'élément le plus matériel, paradoxalement, en comparaison avec les trois autres éléments.
Ce qui, du coup, est pour Bachelard très précieux, puisque ces rêveries ont aussi pour but de montrer comment l'imagination elle-même est faite de matière et le meilleur mouvement pour accompagner celui de l'esprit, en réalité. Donc, comme si la matière était la substance même de l'imagination.
Oui, ce qui d'ailleurs est un point assez paradoxal et qui mérite de voir un peu l'audace qui est celle de Bachelard de déjà parler d'imagination matérielle. Alors que généralement, l'imagination est conçue déjà comme une faculté mentale, quelque chose qui serait de l'ordre, quelque chose de plutôt immatériel, ou en tout cas quelque chose qui nous éloigne des choses, qui est plutôt éthéré, qui est une rêverie évasive, etc. Et là, Bachelard va essayer de montrer qu'au contraire, il y a tout un aspect de la rêverie qui est justement une rêverie qui se forme au contact de la matière. Et il dit bien à un moment donné que les images matérielles sont les images que nous formons de la matière. C'est pas des images qui parlent de l'homme, c'est des images qui parlent du rapport de l'homme à la matière. Et justement, l'imagination nous permet de révéler un certain nombre d'images qui, au contact des éléments matériels de la Terre, stimulent notre imagination.
La dialectique du dur et du mou commande toutes les images que nous nous faisons de la matière intime des choses. Cette dialectique anime toutes les images par lesquelles nous participons activement, ardemment, à l'intimité des substances. durs et mous sont les premiers qualificatifs que reçoit la résistance de la matière, la première existence dynamique du monde résistant. Dans l'ordre de la matière, le oui et le non se disent mou et dur. Pas d'image de la matière sans cette dialectique d'invitation et d'exclusion, dialectique que l'imagination transposera en d'innombrables métaphores, qui s'inversera parfois sous l'action de curieuses ambivalences, jusqu'à définir par exemple une hostilité hypocrite de la mollesse ou une invite agaçante de la dureté. Ces images sont si vraiment élémentaires qu'on pourra toujours les retrouver malgré toutes les transpositions, en dépit de toute inversion, au fond de toutes les métaphores.
Certains êtres vivants pourraient faire penser, en paraphrasant Coluche, que Dieu a dit « Dans la vie, il y aura des durs, il y aura des mous. Et pour celui qui sera petit et mou, ce sera très dur. » Mais la mollitude, ainsi qu'on devrait dire, c'est quoi ? Le comte de Buffon, naturaliste et écrivain français, avant de mourir en 1788, en a donné cette admirable définition, digne d'être gravée dans du mou. Tout ce qui est humide est en même temps mou, c'est-à-dire moins dur que ce qui est sec. Voici un mou, très humide et plutôt petit, pour qui, en effet, la vie est très dure. L'holothurie, ou concombre de mer.
Connaissez-vous le concombre de mer, Julien Lamy ?
Oui.
Oui.
On a déjà vu, oui.
Vous avez vu ce documentaire en ligne qui est exceptionnel ?
Ah non, le documentaire, je ne l'ai pas vu.
Oui,
j'ai
ben...
déjà vu des concombres de mer en direct. En
fait. Et alors, ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce documentaire, c'est qu'il semble illustrer mot pour mot le texte de Bachelard que j'ai lu juste avant, ou plutôt l'inverse, on dirait que Bachelard a écrit ce texte pour cet animal, tant la dialectique du dur et du mou s'incarne au sein de cet animal. Et c'est d'ailleurs exactement ce que dit Bachelard, il dit « cette dialectique anime, car elle n'a de sens véritable que dans une animation, c'est le cas du documentaire, toutes les images par lesquelles nous participons activement. »
Oui. Et on voit, à travers cette dialectique, Bachelard va nous dire que ce sont les deux pôles, finalement, de notre rapport au monde résistant. Les matières résistantes sont soit dures, soit molles. Et selon, justement, que la matière est dure ou molle, elle engage un certain rapport à cette matière qui peut être soit de l'ordre de l'hostilité. Quand il parle de la matière dure, la résistance de la matière dure, d'une certaine manière, stimule notre volonté combative de la soumettre et de la travailler pour lui donner la forme qu'on veut lui faire advenir.
Par exemple, c'est le travailleur ?
Le travailleur, par exemple, un des exemples que prend Bachelard est le sabotier. Alors, il cite les pages d'un écrivain qui a écrit sur le sabotier et Bachelard souligne qu'il y a eu plusieurs versions du texte. Et il montre que selon les versions du texte, on voit apparaître justement cette résistance qu'on a dans la matière. Bachelard va même jusqu'à dire, ça peut faire surprendre au départ, que la matière résistante fait preuve d'une certaine mauvaise volonté. Et que c'est cette mauvaise volonté de la matière résistante qui va stimuler l'action du travailleur. Dans le cas du sabotier, il nous explique que l'écrivain écrit plusieurs versions. Dans la première, l'atelier est un monde un peu statique, où on voit simplement les outils qui sont rangés, bien rangés dans un ordre très rationnel, mais il se passe pas vraiment quelque chose dans l'atelier. Il y a une autre version du texte où on voit finalement l'atelier du point de vue d'un spectateur désengagé, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est là et qui contemple l'atelier. Et il y a une dernière version du texte où Bachelard nous dit, là on voit ce qu'est la matière dure et comment sa résistance excite le travail du sabotier, car on voit le sabotier justement armé de son outil. L'outil devient une arme dans la lutte contre la matière pour justement la transformer, la modifier. Et Bachelard nous dit que le sabotier, dans ce combat avec la matière, va même faire intervenir le langage. Il y a une manière de parler à la matière résistante, voire de l'insulter, de l'invectiver. Comme si finalement la résistance de la matière, cette forme de mauvaise volonté qu'on aurait dans la matière, faisait qu'on se mène dans un rapport presque personnel. Comme si on était face presque à une personne qui a une volonté.
Il y a un anthropomorphisme énorme ici.
Oui, 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 un anthropomorphisme et même un animisme. C'est-à-dire que la matière serait animée d'une forme de vie,
ah,
de
vous
volonté.
Iriez jusqu'à dire ceci, parce que du coup, ça fait de Bachelard une forme de si on dit qu'il est animiste, il y a une forme de mystique derrière sa pensée des éléments. Alors, il me semble que c'est plus compliqué que ça.
Oui, non, j'irai pas jusque-là, ouais. Parce que cet animisme est un animisme imaginaire. c'est l'imagination qui attribue ou qui donne à la matière une forme de vie, ou là de mauvaise volonté qui justement va stimuler l'action du travailleur. Et donc le sabotier, armé de son outil et avec sa colère même, Bachelard parle de la colère du travailleur, mais qui n'est pas une colère violente, destructrice, qui est aussi une colère adroite, parce que l'ouvrier a aussi toute sa maîtrise du travail, mais cette colère est ce qui stimule son énergie et lui donne l'énergie de travailler cette matière qui résiste et qui, au lieu de décourager le travailleur, va exciter sa volonté de puissance, mais qui n'est pas une volonté de puissance contre les hommes, mais une volonté de puissance sur la matière, de dominer la matière.
C'est étonnant parce qu'on aurait pu aussi penser à l'exemple du travailleur, celui qui travaille la matière, les artisans ou artistes en général, comme étant un acte non pas d'agression, non pas d'expression d'une colère, mais au contraire une forme d'accueil de cette matière. Oui. Justement, quand on voit la manière dont travaillent ces artisans, il y a une forme de douceur aussi, de savoir-faire qui semble plus accueillante que colérique.
Oui, ce qui renvoie justement à l'autre pôle de la dialectique qui est les matières plutôt molles. Où justement, Bachelard va dire que les matières molles sont plutôt une forme d'invitation à cette forme de douceur ou de rapport qui est non pas dans l'agression, mais plus dans un rapport de proximité, voire presque parfois, on a l'impression charnel, presque sensuel avec la matière. Alors, ça peut paraître surprenant, mais j'avais eu un écho intéressant de cet aspect-là. J'étais allé présenter les réflexions de Bachelard sur la matière à des céramistes, dans une école de céramique à Vevey. Et j'avais été frappé de voir que pour eux, c'était assez évident ce que disait Bachelard sur ce rapport presque amoureux qu'un artisan ou un artiste peut avoir avec une matière, justement la matière molle, la pâte qu'il va travailler de ses mains de manière presque charnelle et qui va lui donner une forme justement par le travail des mains. Et que la mollesse, la matière molle, la pâte par exemple, invite plus sous une forme plus douce effectivement que la matière dure, qui elle par sa résistance est plutôt hostile.
Jusqu'où cette dialectique entre le dur et le mou opère dans la pensée de Bachelard, puisque dans l'extrait que j'avais lu, qui est un extrait de La Terre et les rêveries de la volonté, il faisait un parallèle entre mou et dur et le oui et le non. Or, on sait que Bachelard est l'auteur de La philosophie du non, qui pour le coup est un ouvrage d'épistémologie. Il montre l'intérêt de la négativité dans l'épistémologie, dans l'histoire des sciences. Est-ce qu'il y a une transposition ici entre le Bachelard scientifique et le Bachelard poétique ?
Alors, on pourrait faire une analogie du point de vue du rapport à l'obstacle. Parce qu'on voit dans toute l'épistémologie bachelardienne qu'il y a cette dimension de lutte contre l'obstacle épistémologique, justement cet imaginaire qu'il faut réduire pour parvenir à une connaissance objective du réel, et que finalement le scientifique au travail lutte contre certains obstacles qui sont propres finalement à son esprit, et que d'un autre côté il y a aussi cette matière dure qui est un obstacle dans un premier temps à l'action du travailleur. Et que cet obstacle est ce qui va stimuler le désir de travailler, le désir de transformer la matière. Et l'analogie pourrait fonctionner de ce point de vue-là sur le fait que l'obstacle dans le domaine de la connaissance intellectuelle est peut-être ce qui stimule le désir de comprendre. Et c'est plutôt de cet aspect-là, l'obstacle qui stimule finalement l'action et la volonté d'entreprendre de l'homme.
Si on met schématiquement le dur du côté de la volonté, le mou du côté du repos, il ne faudrait pas non plus penser que c'est seulement dans le mou que l'homme va trouver le repos. Au contraire, nous dit Bachelard, il est une façon d'aller dans la matière, cette fois-ci non plus contre, c'est une manière d'habiter cette matière qui va nous induire à ce repos. Alors cette fois, pas le repos simplement physique, mais le repos de l'être, nous dit-il. C'est une manière que nous pouvons avoir d'habiter une maison. Alors il distingue la maison réelle, ou la maison natale, même dans laquelle on a grandi, de la maison onirique. Écoutez la description de la maison onirique, c'est par le comédien Georges Clès.
Le monde réel s'efface d'un seul coup quand on va vivre dans la maison du souvenir. Que valent-elles, les maisons de la rue, quand on évoque la maison natale, la maison de l'intimité absolue, la maison où l'on a appris le sens de l'intimité? Cette maison, elle est lointaine, elle est perdue, nous ne l'habitons plus, nous sommes hélas sûrs de ne plus jamais l'habiter. Elle est alors plus qu'un souvenir. Elle est une maison de rêve, notre maison onirique. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel? La maison même où l'on dort, ou bien la maison où, dormant, l'on va fidèlement rêver? Je ne rêve pas à Paris, dans ce cube géométrique, dans cet alvéole de ciment, dans cette chambre aux volets de fer si hostile à la matière nocturne. Quand les rêves me sont propices, je vais là-bas, dans une maison de champagne ou dans quelques maisons où se condense le mystère du bonheur. On le voit bien, quand on sait donner à toutes les choses leur juste poids de rêve, habiter oniriquement, c'est plus qu'habiter par le souvenir. La maison onirique est un thème plus profond que la maison natale. Elle correspond à un besoin qui vient de plus loin. Si la maison natale met en nous de telles fondations, c'est qu'elle répond à des inspirations inconscientes plus profondes, plus intimes, que le simple souci de protection, que la première chaleur gardée, que la première lumière protégée. La maison du souvenir, la maison natale, est construite sur la crypte de la maison onirique. Dans la crypte est la racine, l'attachement, la profondeur, la plongée des rêves. Nous nous y perdons. Elle a un infini. Au lieu de rêver à ce qui a été, nous rêvons à ce qui aurait dû être, à ce qui aurait à jamais stabilisé nos rêveries intimes.
Julien Lamy, chez Bachelard, la maison est un archétype, ce terme est important, de l'esprit enfantin, mais qui va persister tout au long de la vie d'adulte. Elle a une fonction protectrice, il s'agit vraiment d'un foyer. Et ici, on l'entend chez Bachelard, c'est surtout le lieu de l'intime. Alors comment est-ce qu'ici la terre est-elle présente, puisque c'est une matière que l'eau, qui finalement est simplement extérieure, protectrice?
Alors effectivement, cette idée que la maison est cette image qui nous permet de retrouver le sens de l'intimité rejoint l'archétype de l'intimité protégée. La maison est justement cette image qui permet de comprendre que pour bien habiter, pour se sentir chez soi dans le monde, on a besoin d'un refuge. Et Bachelard va dire dans toutes les images du repos, ce sont aussi les images du refuge, du repli sur soi, de cette intimité qui peut se lever dans un coin quelque part et qu'on n'habite pas finalement le monde de manière générale, mais qu'on habite un petit coin du monde. Voire même, Bachelard va réfléchir sur le coin dans la maison et va parler de cet enfant justement qui va passer des heures de solitude rêveuse dans un coin et s'y sentir bien parce qu'il va se sentir dans un petit coin qui le protège. Il évoque, je crois, l'écrivain Ruskin qui raconte dans certaines confidences justement comment il a passé des heures à rêver tout seul dans un coin. Et que voilà, cette idée de repli est ce qui donne le sens de l'intimité. Et que la maison n'est pas simplement à considérer d'un point de vue fonctionnel, ce qui est quand même un des aspects aussi de la maison dans la vie, on va dire, réelle. La maison, c'est aussi le logement, c'est l'endroit où on habite, où on séjourne, mais qui est aussi, par l'imagination, l'idée que la maison est quelque chose vers quoi on rêve et dans laquelle on s'imagine être chez soi, être bien. Et que ça passe d'abord par la maison natale, la maison du souvenir, où là on voit finalement que l'imagination se mêle à la mémoire et que la distinction entre les deux devient finalement assez floue, parce que Bachelard nous dit que dès que la mémoire est investie par l'imagination, le souvenir n'est plus un simple fait qu'on peut loger dans une chronologie, mais est une valeur. Et justement le souvenir de l'endroit où on était bien. Et que ça renvoie à la rêverie de la maison natale. Mais que même plus profondément que la maison natale, il y aurait la maison onirique, celle qu'on rêve. Et qui est peut-être une maison dans laquelle on n'a jamais vécu, peut-être une maison qu'on n'a jamais rencontrée, mais qui est une maison qui correspond pour l'individu à l'endroit où il pourrait se sentir chez soi, bien. Et du coup, ça apaiserait, on pourrait dire, notre sentiment d'existence, même si ce n'est que sur le plan de l'imagination. Et ça, c'est quand même un point qui me semble chez Bachelard assez important, c'est que l'imagination nous permet, grâce à certaines images, de nous apaiser, de nous sentir bien quelque part, et qu'elle a, dans un certain sens, quelque chose à faire dans notre sentiment d'existence.
Et là, on voit bien que l'élémentaire est purement imaginaire dans le cas de la maison onirique. Il ne s'agit pas d'un élément solide, de matière palpable, mais au contraire d'une matière qu'on imagine et qui nous fait sentir encore mieux que la matière réelle.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce que Bachelard soulignera, c'est que cette maison natale ou cette maison onirique, ce qui en fait d'autant plus une dynamique de réconfort, c'est qu'elle soit inscrite dans la terre. On a entendu dans le bel extrait tout à l'heure Bachelard qui fait cette confidence à Paris, je n'arrive pas à rêver dans ces appartements qui sont des cubes géométriques parce que justement cet appartement n'a pas ce lien à la terre. Et il y a tous ces textes qui font référence notamment à la cave qui enracine la maison dans la terre et puis finalement toute cette dimension qui fait que la maison dans une certaine mesure est un lieu qui nous enracine quelque part mais par l'imagination. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important dans la réflexion de Bachelard. On s'enracine par la rêverie. C'est pas un attachement à un sol au sens concret du terme, à un lieu, à un terroir. Ça passe par le vecteur de la rêverie. On s'enracine par l'imagination.
Mais vous parlez de racine, de s'enraciner. C'était présent dans le texte qu'on a entendu. Oui. Effectivement, on a ici la métaphore déjà de l'arbre, qui est si importante pour Bachelard. Mmh. Il a souvent dit qu'il voulait écrire un ouvrage sur l'arbre et sur la nuit, et finalement, il s'est fait emporter par les éléments et les rêveries liées aux quatre éléments. Et on a aussi, c'est difficile de ne pas penser à la thématique de l'enracinement, de l'habitation de la terre, à Heidegger, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, et pourtant, Bachelard l'a lu, j'imagine, et pourtant, ses écrits sont... il n'est pas en accord totalement avec ce que dit Heidegger. La façon qu'il décrit l'habitation est beaucoup moins ancrée dans une forme de terroir, paradoxalement, alors que Bachelard ne cesse de parler de sa Champagne, qu'Heidegger.
Oui. Alors effectivement, la comparaison entre Bachelard et Heidegger semble nécessaire dans la mesure où on a des thématiques qui sont assez proches. Mais quand on lit déjà le chapitre consacré à la maison dans la terre et les rêveries du repos, et puis quand on prolonge cette lecture parce qu'il y aura par la suite dans la poétique de l'espace, on se rend compte que pour Bachelard, la thématique de l'être jeté au monde qu'on trouve chez Heidegger et qui sera reprise par certains existentialistes français, en fait, lui apparaît comme une thématique trop abstraite. Parce qu'elle est déjà de l'ordre d'une conscience claire, d'une intellectualisation de notre rapport au monde. Et Bachelard souligne qu'on n'est pas au monde. On est d'abord dans des coins, des espaces, des lieux précis, un ici, comme cela a été évoqué hier. Et Bachelard va notamment, dans certains textes, opposer à cet être jeté dans le monde le berceau de la maison, qui va associer ces deux images du berceau, du premier lieu qui va accueillir l'enfant et le protéger, et de la maison, qui est une sorte de berceau pour l'homme, et que l'homme d'abord apprend le sens de l'intimité dans la maison. Et il n'est pas comme ça, comme un spectateur face au monde. Il est d'abord un être enveloppé par des lieux, des coins qui, justement, lui permettent de se sentir bien quelque part.
Pas de vraie maison onirique qui ne s'organise en hauteur. Avec sa cave bien en terre, le rez-de-chaussée de la vie commune, l'étage où l'on dort et le grenier près du toit, une telle maison a tout ce qui est nécessaire pour symboliser les peurs profondes, la platitude de la vie commune à ras de terre et les sublimations. Bien entendu, la topologie onirique complète demanderait des études détaillées. Il faudrait aussi accueillir des refuges parfois très particuliers, un placard, un dessous d'escalier, un vieux bûcher peuvent donner de suggestifs dessins pour la psychologie de la vie enfermée. Mais dans l'adhésion totale à la vie intime de la maison que nous caractérisons dans ces pages, nous laissons de côté les rages et les frayeurs nourris dans un cachot d'enfant. Nous ne parlons que de rêves positifs, des rêves qui reviendront tout au long de la vie comme des impulsions à des images sans nombre. Alors on peut donner comme une loi générale le fait que tout enfant qui s'enferme désire la vie imaginaire. Les rêves, semble-t-il, sont d'autant plus grands que le rêveur se tient dans un plus petit réduit. Ainsi, un philosophe de l'imaginaire rencontre le problème du retour à la Terre. Qu'on excuse son incompétence en considérant qu'il ne traite ce problème social qu'au niveau du psychisme rêvant, il serait satisfait s'il pouvait seulement engager les poètes à nous construire, avec leurs rêves, des maisons oniriques, avec caves et greniers. Il nous aiderait à loger nos souvenirs, à les loger dans l'inconscient de la maison, en accord avec des symboles d'intimité que la vie réelle n'a pas toujours la possibilité de bien enraciner.
Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Mais dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images embaument aux brises frissonnantes, aussi folles que l'aube, aussi belles que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange, et le prêtre et le dieu et le doute et la foi et l'amour et la femme et le démon et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai couché mon lit. Mon lit est est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos. Je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain. Où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleils, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons, mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison.
La maison onirique de Gaston Bachelard par la chanteuse Barbara. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la vie rêvée de Gaston Bachelard. Après le feu lundi, l'air mardi, l'eau hier mercredi, c'est de la terre que nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Julien Lamy qui enseigne la philosophie au lycée de la Versoie à Thonon et qui nous conduit dans les rêveries de la terre de Bachelard aujourd'hui. Alors dans le texte que j'ai lu, Julien Lamy, un extrait de La Terre et les rêveries du repos, Bachelard affirme de manière très claire vouloir évacuer radicalement toute la dimension sombre, disons cauchemardesque, de cette maison onirique. Il le dit bien, il dit oui, on pourrait parler des... Il y a tous les petits endroits de la maison dans lesquels l'enfant aime se nicher, c'est ce que vous disiez, mais on ne va pas parler des placards, des cachots, des refuges, parce que finalement ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sombre et moi je ne veux parler que des rêves positifs. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui affirme ensuite vouloir s'intéresser à l'inconscient de la maison, qui a fait une psychanalyse du feu, là pour le coup il y a un refoulé gigantesque.
Oui, alors effectivement c'est un point qui peut surprendre, mais Bachelard s'en explique à différents endroits, et notamment dans La Poétique de l'espace qui viendra après le livre sur la Terre, il assume pleinement cette volonté de s'intéresser aux espaces heureux, à ce qu'il appellera la topophilie, c'est-à-dire tous ces espaces, tous ces lieux dans lesquels nous avons vécu des moments de bonheur ou des moments de joie. Il laisse de côté tout cet aspect plus sombre, mais il en a quand même conscience. Il le dit d'ailleurs à un moment
donné... Oui, c'est en ça que ce n'est pas un refoulé, justement, parce qu'il le sait. Ouais.
Il le dit notamment dans La Terre et les rêveries du repos, que la vie repliée, qui est justement liée à l'archétype de la maison et du refuge, la vie repliée est quand même ambivalente. Ça peut être l'enfermement de l'enfant qui va se mettre quelque part pour s'isoler et pouvoir rêver, mais ça peut être aussi l'enfermement de la prison ou même de la punition. Vous avez parlé du placard. Le placard peut être peut-être l'endroit où l'enfant va aller jouer et rêver, mais ça peut être dans des cas un petit peu durs, l'enfant qui est puni et qu'on enferme dans le placard. Mais il me semble qu'on pourrait comprendre cet intérêt pour Bachelard pour les espaces heureux dans le sens, par rapport à la psychanalyse, ça rejoindrait les critiques qu'il lui adresse souvent dans la mesure où elle s'intéresse plutôt à l'aspect social dans l'être humain. Et justement, dans le cadre de la maison, les lieux qui peuvent venir des lieux d'enfermement sont généralement liés à des relations sociales. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va être puni, par exemple, qui va être enfermé dans un endroit contre son gré, dans un moment qui va être plutôt douloureux et angoissant. Alors que si on enlève le côté justement social et qu'on s'intéresse à la manière dont, par exemple, l'enfant seul va aller rêver dans un coin, là, c'est le rapport à la maison, au coin, aux matières même de la maison, qui va être justement le vecteur d'une rêverie plutôt heureuse. Et que l'aspect plutôt dramatique vient, me semble-t-il, souvent, et la vie sociale n'est pas que cet aspect-là, mais vient des relations sociales.
Mais ça, c'est étonnant parce que dans La Terre et les rêveries de la volonté, Bachelard écrit un texte qui semble aller un peu contre la psychanalyse, où il dit « Les psychanalystes nous diront que les vrais adversaires sont humains, que l'enfant rencontre les premières interdictions dans la famille et qu'en général, les résistances qui briment le psychisme sont sociales. Mais, dit-il, se borner comme le fait la psychanalyse à la traduction humaine des symboles, c'est oublier toute une sphère d'examen, l'autonomie du symbolisme, sur laquelle nous voulons attirer l'attention. » Il termine en disant « Le psychisme est animé d'une véritable fin d'image, il veut des images. En somme, sous l'image, la psychanalyse cherche la réalité, elle oublie la recherche inverse, sur la réalité, chercher la positivité de l'image. » C'est comme s'il choisissait lui-même la partie du psychisme à laquelle il allait s'intéresser, et ça allait être uniquement le psychisme positif, et celui-ci n'est pas d'ordre social. Oui. C'est quand même un parti pris qui est très fort ici.
Ah oui, qui est quand même très fort. Et qui,
il faut être seul pour être heureux.
Dans une certaine... Alors... C'est peut-être un peu excessif, mais il y a l'idée qu'en tout cas, la solitude est le vecteur d'une vie heureuse qui passe par la rêverie. Et il me semble que vous avez raison de souligner la critique de cet aspect social de la psychanalyse et qui va conduire Bachelard. Et vous avez raison de souligner que c'est un parti pris assez fort et qui pose tout un certain nombre de difficultés, qui va du côté d'un imaginaire naturel. Bachelard va dire, quand on s'intéresse à l'imaginaire et qu'on essaie d'explorer justement l'imaginaire, il faut distinguer plusieurs couche ou strate, même si la métaphore un petit peu géologique est simplement une métaphore. Il y a l'imaginaire biographique qui correspond à ce qu'a vécu l'individu, à sa mémoire et à tout ce qu'il a vécu de personnel. Il y a aussi tout ce qui relève de l'imaginaire social et qui va impliquer justement les relations aux autres et aussi les relations à la culture à laquelle on appartient. Et puis il y aurait une forme d'imaginaire, va nous dire Bachar, qui est un imaginaire naturel. C'est-à-dire qui serait indépendant des constructions socioculturelles par rapport à la maison, par rapport aux matières, et qui serait une forme de lien avec un fond imaginaire naturel. Et là où Bachar fait un choix qui est très fort théoriquement et qui peut poser certains problèmes, c'est de dire qu'il y a une forme d'imaginaire universel qui est lié justement à cet imaginaire, qui est cet imaginaire naturel, qui renvoie aux archétypes auxquels il fait souvent référence, et qui est justement ce qu'on peut retrouver dans la solitude rêveuse, quand on a coupé dans une certaine mesure le rapport aux autres et qu'on est par exemple face à une matière ou dans un lieu, qui nous reconduit à quelque chose de naturel qui renverrait à des expériences universellement partageables. Quelles que soient les cultures. Et Bachar le dit, quelles que soient les époques ou les cultures.
Mais c'est en cela que c'est vraiment le philosophe de la rêverie et non du rêve. Oui. Parce que le rêve, c'est quand même la matière même de la psychanalyse. Oui. Et lui, il tient à la rêverie. Donc ce qui, pour le coup, est à la fois conscient et inconscient et dans cet état proprement imaginatif.
Oui. Oui, effectivement, et la façon dont il analyse la rêverie montre bien que pour lui, ce qui est important et ce qui la distingue du rêve nocturne, c'est que le sujet est quand même, dans une certaine mesure, conscient. Il y a une forme de conscience, alors qui n'est pas la conscience attentive, concentrée, tendue, par exemple, de celui qui est en train de faire un travail intellectuel, mais qui est une forme de conscience plus détendue, mais qui maintient l'individu quand même dans une forme de conscience. Alors que le rêve nocturne, comme le dit Bachelard plus tard, après la Terre, est une dissolution du sujet. Le sujet ne s'appartient plus à lui-même dans le rêve nocturne, il n'y a plus vraiment de sujet. Alors que dans la rêverie, le sujet demeure dans une certaine mesure actif. Alors il est à la fois passif parce qu'il est les images lui viennent par son contact avec les choses ou avec la matière, mais il demeure quand même conscient, actif et présent à sa rêverie.
Nous faisons un choix, écrit-il dans La Terre et les rêveries de la volonté, qui va limiter étroitement le champ de nos recherches. Entre l'homme chef de clan et l'homme maître de forge, nous choisissons le maître ouvrier, celui qui participe au combat contre les substances. La volonté de puissance inspirée par la domination sociale n'est pas notre problème. L'homo faber, dans son travail de la matière, ne se contente pas d'une pensée géométrique de l'ajustage. Il jouit de la solidité intime des matériaux de base. Il jouit de la malléabilité de toutes les matières qu'il doit ployer. Et toute cette jouissance réside déjà dans les images préalables qui encouragent au travail. L'image matérielle est un des facteurs du travail. Elle est le tout proche avenir, l'avenir matériellement préfiguré de chacune de nos actions sur la matière.
C'était le tour de la gueule d'or. Avant de commencer, il jeta à la blanchisseuse un regard plein d'une tendresse confiante. Puis, il ne se pressa pas. Il prit sa distance, lança le marteau de haut à grande volée régulière. Il avait le jeu classique, correct, balancé et souple. Ce n'était pas de l'eau de vie que la gueule d'or avait dans les veines, c'était du sang pur qui battait puissamment jusque dans son marteau et qui réglait la besogne. Un homme magnifique au travail, ce gaillard-là. Il recevait en plein la grande flamme de la forge. Ses cheveux courts, frisant sur son front bas, sa belle barbe jaune aux anneaux tombants, s'allumaient, lui éclairant toute la figure de leur fil d'or, une vraie figure d'or, sans mentir. Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc comme un cou d'enfant, une poitrine vaste, large à y coucher une femme en travers, des épaules et des bras sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d'un géant dans un musée. Quand il prenait son élan, on voyait ses muscles se gonfler, des montagnes de chair roulant et durcissant sous la peau. Ses épaules, sa poitrine, son cou enflaient. Il faisait de la clarté autour de lui. Il devenait beau, tout puissant, comme un bon dieu. 20 fois déjà, il avait abattu Fifine, les yeux sur le fer, respirant à chaque coup, ayant seulement à ses tempes 2 grosses gouttes de sueur qui coulaient.
Dans l'assommoir d'Émile Zola, l'héroïne Gervaise va rendre visite à son ami Gouget, dit Gueule d'Or, qui entame avec un de ses compagnons de travail un concours, celui qui frappera le plus beau boulon. La description du texte qu'on a entendu lu par Georges Clès de n'avoir cette matière à l'œuvre dans le travail, à la fois la puissance qu'il déploie pour battre le fer, à l'aide de Fifine, sa massue qui est ironiquement appelée ainsi, et la description de son corps lui-même. Et on dirait que le corps et le métal ne font plus qu'un, il s'agit d'une même matière volcanique. Comment expliquer, Julien Lamy, une sorte de fascination, l'archétype proposé par Bachelard, qui est celui du forgeron? Pourquoi le forgeron en particulier?
Parce que le forgeron, alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le forgeron est justement l'archétype du travailleur contre la matière dure. Bachelard va dire le métal est vraiment peut-être parmi les images de la dureté, celui qui signale la plus grande résistance et qui va nécessiter justement une lutte ardue du travailleur armé d'un outil. D'ailleurs, dans le cas du forgeron, ce qui apparaît nettement, c'est la nécessité pour le travailleur d'être aidé par un outil contre la matière. On ne travaille pas le métal avec ses mains. Il faut le travailler avec soit la massue, soit le marteau, etc. Et que donc, dans la lutte contre la matière résistante, finalement, le travailleur va trouver un allié dans l'outil. Et le forgeron, donc, est l'exemple type de ce travailleur contre une matière dure et qui va employer à la fois toute sa puissance de travail, son corps, qui va s'engager contre la matière et qui va aussi devoir employer des ruses, toute une intelligence dans l'usage de l'outil, dans la maîtrise de certains procédés pour justement faire advenir, par exemple, le boulon ou une autre forme dans cette matière. Et la deuxième raison, peut-être aussi plus générale, ça a été évoqué en début d'émission dans ce que disait Bachelard, le forgeron, en plus, convoque tous les éléments. Et il va nous dire c'est presque un archétype de la cosmogonie, dans la mesure où c'est presque un monde, la forge, nous dit Bachelard. Il intervient la matière dure, le métal, mais il intervient aussi le feu. Donc le feu va aussi devenir un allié pour le travailleur, pour faire fondre le métal, pour ensuite pouvoir le travailler. L'eau va aussi être importante ensuite pour resolidifier cette matière qu'on a d'abord fondue et qui passe de la matière dure à la matière molle, qu'on peut ensuite retravailler, resolidifier avec l'eau et avec l'air aussi qui va aussi intervenir. Donc les quatre éléments, dans une certaine mesure, sont convoqués dans ce travail du forgeron.
Dont il dit qu'il met le travail du forgeron met le travailleur au centre d'un univers et non plus au centre d'une société. Oui. On retrouve ici cette insistance, ce désir de Bachelard d'extraire sa réflexion et les exemples qu'il prend de l'univers social, alors que cette fois-ci on n'est plus du tout dans le domaine de la psychanalyse.
Oui, et si on rebondit sur le texte qui a été lu tout à l'heure, vous avez souligné que d'abord c'est une compétition qui conduit Gueldor à vouloir faire le plus beau boulon.
Le texte de Zola, oui.
Voilà. Ouais. Donc c'est une compétition. Donc là, on voit l'aspect social. C'est une question de prestige, c'est une question finalement de reconnaissance, etc. Donc il y a d'abord cet aspect-là. Mais dans le texte qu'on lit, on voit qu'il y a une autre forme de lutte qui apparaît. Et que cette fois est une lutte qui est l'homme face à une matière, non plus l'homme contre l'homme. Ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur la volonté de puissance, soit sociale, soit naturelle. Et là, on est dans la lutte de l'homme contre la matière, donc contre aussi en lien avec la nature, qui du coup fait qu'on est dans un univers, car il y a simplement un homme face à la matière, et non plus un homme dans sa lutte avec les autres hommes, qui la reconduirait à tout ce qui relève de la compétition sociale, ou des relations sociales, d'adversité, etc.
Mais là, il est vraiment, dans le texte que j'ai lu, il est vraiment question de jouissance.
Oui.
Le terme est prononcé à plusieurs reprises, donc ce combat-là n'est pas simplement motivé par la colère, il y a aussi un vrai plaisir pris à ce travail.
Ah oui, effectivement, et Bachelard va même parfois jusqu'à dire qu'il y a une forme d'ivresse de la puissance et de l'activation de notre puissance qui est là présente quand on travaille les matières. Ce qui souligne d'ailleurs un point important, il me semble, dans l'approche que Bachelard fait de la matière et des quatre éléments, qui est lié à l'intérêt affectif, passionné que nous avons vis-à-vis des matières, qui n'est pas simplement un rapport utilitaire, par exemple, à un matériau qu'on va transformer, mais qui a effectivement quelque chose qui relève du désir, de la passion, et qu'on est là dans quelque chose qui relève effectivement qui mobilise tout l'affect.
Mais là, c'est l'imaginaire de Bachelard qui parle, parce que lui-même n'est pas du tout dans cette position-là. Quand Bachelard, le philosophe rêveur qui écrit La lumière de sa chandelle, est bien loin d'être ce forgeron qu'il imagine.
Oui.
Donc est-ce qu'il loue ce travail-là? Est-ce qu'il l'envie? Comment se situe-t-il par rapport à cet archétype?
Alors ça, on n'a pas exactement de confidence directe par rapport à cet archétype, mais il me semble que pour lui, l'idée c'est que, si on va même au-delà de la description qu'il fait directement, il y a presque une leçon qu'on peut tirer de la figure du forgeron, ou même du graveur, du sculpteur, qui nous rejoint, qui renvoie à ce qui a été évoqué aussi dans les émissions précédentes sur le caractère éthique aussi que peut impliquer la vie des images. Parce que justement, l'image du forgeron peut aussi être une leçon de vie qui nous stimule, qui nous encourage. En lisant le poète qui va décrire le forgeron, si on participe par l'imagination aux images telles qu'elles sont décrites, et si on s'engage soi-même par la rêverie, par projection dans ce travail du forgeron, du sculpteur ou du graveur, on peut en tirer, il me semble, comme dit Bachelard, un bienfait psychique d'entraînement. On devient soi-même presque un peu forgeron par la rêverie en lisant le poète. Et justement, si soi-même on n'a pas ces expériences jouissives du travail de la matière, si on n'est pas artiste, si on n'est pas artisan, on peut en lisant les poètes, et c'est ce qui fait tout l'intérêt, il me semble, chez Bachelard, de la lecture des poètes, ça nous introduit dans cette vie par l'imagination, la vie du forgeron, la vie du sculpteur, la vie du graveur, et on en tire un bienfait psychique.
Alors Bachelard nous a mis en garde dès le début de l'émission, et on le remarque à la lecture des ouvrages, que dans le cas de ces livres consacrés à la Terre, il y avait trop d'images, c'était extrêmement complexe et tout n'était pas vraiment synthétique. On avait du mal à faire le lien entre ces images. Là, jusqu'à présent, on a tenu une forme de cohérence, Julien Lamy, entre le mou et le dur, entre le passif et l'actif, le repos, la volonté. Bon. Prenons un exemple d'un archétype de l'inconscient qui paraît là pour le coup être complètement hors sujet, c'est le serpent.
Oui.
Dans La Terre et les rêveries du repos, il écrit ceci, le serpent est un des archétypes les plus importants de l'âme humaine, il est le plus terrestre des animaux, c'est vraiment la racine animalisée, et dans l'ordre des images, il est le trait d'union entre le règne végétal et le règne animal. Il s'ensuit une longue description du serpent. Pourquoi le serpent ?
Alors effectivement, ça peut surprendre, du coup, parce que c'est un animal, c'est plus une matière inerte comme les autres matières qui sont évoquées dans le livre. Et d'ailleurs, Bachelard souligne bien, vous l'avez dit, c'est un archétype essentiel, parce qu'un archétype fondamental de l'âme humaine. Alors quand on lit les pages qu'il consacre au serpent, ça va permettre à Bachelard de montrer, dans sa compréhension de l'archétype, que ce qui est essentiel, c'est l'aspect affectif, et notamment les émotions. Alors il va décrire de manière assez intéressante, justement, que face au serpent, même si on n'a jamais vécu directement une expérience de serpent, il y a une forme d'émotion primitive, archaïque, qui peut surgir. Et Bachelard fait référence à une expérience qu'a vécu Darwin, le naturaliste, qui pourtant, observateur chevronné du monde animal, en plus d'animaux aussi sauvages, etc. Darwin raconte qu'à un moment donné, dans un jardin zoologique, il se retrouve face à un serpent qui est donc dans son vivarium, derrière une vitre. Donc il y a positivement aucun risque. On sait que le serpent est de son côté. Mais Darwin raconte qu'il a quand même eu un mouvement de recul au moment où le serpent s'est tourné vers lui. Comme si finalement une sorte de peur archaïque ancestrale était liée à cet animal. Et que justement, ça montrait que dans l'archétype, il y a cette dimension émotionnelle importante qui fait partie du fond de l'âme humaine.
Et c'est en ce sens-là qu'il se sert de l'exemple du serpent. C'est simplement pour exprimer ça.
Pour exprimer ça et aussi pour montrer que le serpent est l'animal justement terrestre qui surgit de la terre, se cache dans la terre, qui est aussi dans cette dialectique de ce qui apparaît, de ce qui se cache. Parce que justement, la terre est aussi la matière qu'on voit, mais aussi tout l'intérieur de la terre, l'intimité de la profondeur. Donc il semble que le serpent, par ses différents aspects, il semble totaliser ou en tout cas recueillir les différents aspects qui caractérisent l'archétype, et notamment les archétypes terrestres.
Donc là, on comprend quand même désormais que loin d'avoir une structure, ces ouvrages de Bachelard procèdent vraiment sur le modèle de la rêverie de l'association libre d'images.
Oui.
Puisqu'on a vraiment du mal à synthétiser toute cette approche-là. C'est Bachelard lui-même qui part de la Terre comme une espèce de prisme général pour proposer des analyses vastes et variées.
Oui. Oui, et il me semble que ça recoupe de manière plus générale sa méthode de travail, notamment quand il travaille sur l'imaginaire. Dans la mesure où Bachelard, mais ça c'est un point plus général de sa méthode, nous dit, en tant que philosophe, le risque c'est souvent de partir d'idées a priori, de principes, et ensuite on va chercher une confirmation de ces principes ou de ces idées dans des exemples. Bachelard nous dit, moi je vais prendre la démarche inverse, je lis les poètes, et des poètes divers qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Donc ce qui donne un peu cette démarche rhapsodique, le texte est entrecoupé de citations, de longues pages, de courtes pages, etc. Et dans un deuxième temps, il essaye d'en dégager justement des constantes, des régularités. Ce qui fait que derrière tout cet éclatement, il y a quand même la recherche permanente, continuée de cette cohérence, même si elle finit jamais dans une sorte d'unité bien conceptuelle, bien claire, mais qu'on peut trouver quand même des formes de constantes et d'invariants.
Et dans l'ouvrage qui suivra, La poétique de l'espace, il reprendra le thème notamment de la maison.
Oui, le thème de la maison et de tous ces lieux qui nous permettent d'habiter de façon heureuse le monde.
Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on peut penser en lisant les ouvrages, il n'a pas du tout fait le tour de ces rêveries-là. C'est sans fin en réalité.
Oui, et d'ailleurs il reviendra plus tard, le texte sera publié de manière posthume sur le feu, et régulièrement il fera quelques indications ici et là, comme quoi, avec l'évolution de son travail, il aurait dû retravailler tel texte, etc. Et finalement c'est effectivement un travail sans fin.
Merci.
Merci.
On arrive à la fin.
Crestfallen, side kick in an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around.
Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow.
C'est avec la voix terreuse de Tom Waits, Cold Cold Ground, qui chante l'appel du sol froid que nous nous quittons. Un grand merci à vous, Julien Lamy.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de Bachelard et de la Terre aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez la philosophie au lycée de la Versoie, à Thonon. Vous êtes chargé de cours à l'université de Lyon. Et que vous avez soutenu l'an dernier une thèse intitulée « Le pluralisme cohérent de la philosophie de Gaston Bachelard », dont on attend l'édition prochaine, n'est-ce pas ?
Oui.
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, lire Gaston Bachelard est à la fois un plaisir et une rêverie constante sur tous les ouvrages dont nous avons parlé cette semaine, la psychanalyse du feu, l'air et les songes, l'eau et les rêves, la terre et les rêveries du repos et la terre et les rêveries de volonté. Ça, c'était aujourd'hui. On trouve ces ouvrages au PUF notamment, chez José Corti également, quelle que soit l'édition. Vous pouvez vous y plonger. Là aussi, c'est comme avec les téléchargements des nouveaux chemins, en conduisant, si vous voulez, même si c'est plus dangereux, en vous endormant surtout, on vous le conseille, vous verrez. Il y a un effet très bénéfique pour le sommeil de la lecture de Gaston Bachelard. Et il ne faudrait pas oublier non plus que Bachelard est également épistémologue et qu'il y a de nombreux ouvrages consacrés à l'épistémologie. On en avait déjà parlé ici, la philosophie du nom notamment. Eh bien, cette semaine, il n'en a pas été question. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre semaine. Qui sait, mais Bachelard n'est pas que poète, il est aussi philosophe et épistémologue. Allez, les sons de Tom Waits, c'est son appel du sol froid. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
Quand j'ai pratiqué la médecine, il y a 35 ans maintenant, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de soigner une varicocelle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas ? Je le suis.
Alors, a priori, la légèreté de ton de Louis-Ferdinand Céline, médecin de vocation, qui raconte comment il s'amusait à guérir, tranche radicalement avec le propos de la philosophe Claire Marin. En effet, son essai « Violence de la maladie, violence de la vie » qui paraît dans une deuxième édition chez Armand Collin, commence sur ces mots. « Personne n'est jamais prêt à une telle chute. On ne s'habitue pas. Ni à l'idée, ni à la réalité de la maladie. On ne l'accepte pas, on ne s'y résigne pas. Tomber malade, tomber vraiment malade, c'est-à-dire faire une autre expérience que celle d'une parenthèse sans conséquence dans l'évidence de la vie saine, tomber malade reste de l'ordre de l'insupportable. » Alors comment emprunter, quel mot emprunter pour dire « c'est insupportable » Comme pour l'extrait de Céline, tout est un problème de mots. Tomber malade, tomber littéralement, échappe à la communication. Et c'est peut-être ce qui explique le silence de la philosophie sur la maladie, ou du moins l'absence de consolation qu'elle peut apporter face à la violence de la maladie. Cet essai de Claire Marin apparaît donc comme une tentative de mettre en mots et en forme l'expérience de la maladie, la catastrophe intime qu'elle provoque, pour reprendre le titre d'un autre ouvrage de Claire Marin, en fait du bouleversement qu'elle inflige au corps, à l'identité et au rapport aux autres. Mais alors s'il est question des violences de la maladie a ceci qu'elle révèle la violence même et seule de la vie, l'indicible de sa puissance qui se déchaîne, freine ou s'arrête sans crier gare. Alors oui, les propos de Céline peuvent sembler légers, mais que faire et pas seulement dire face à l'insupportable de la vie qui fragilise sans cesse l'homme ? Le problème n'est pas la légèreté de Céline ou du médecin, au contraire, le problème c'est plutôt de voir la vie comme le paradigme de l'anormalité, alors que c'est la force de la vie qui déplace déjà sans cesse nos limites et nous pousse à aller vers notre risque.
La consolation, ce serait un thème magnifique pour une série d'émissions, Géraldine.
Ce serait bien de le faire.
On va y repenser.
Et donc, c'est un essai de Claire Marin, « Violence de la maladie, violence de la vie ». C'est une deuxième édition et c'est paru chez Armand Collin.
Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. C'est la fin de la série d'émissions consacrée à Bachelard, mais demain on se retrouve pour les chemins du vendredi. L'actualité philosophique du jour, ce sera l'ouvrage de Pierre Bourrets, Lumière du Moyen-Âge, Maïmonide, philosophe. Il viendra vous en parler. Rendez-vous demain donc de 10h à 11h. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant les émissions de cette semaine. Et puis surtout, vous pourrez la podcaster, la télécharger afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires.